après ce temps de louange glorieux, tellement intense. Mais voilà, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs bienvenue si c'est votre première fois parmi nous. Est-ce qu'il y en a, c'est votre première fois parmi nous, est-ce que vous pouvez lever la main, qu'on puisse vous accueillir comme il se doit? Soyez les bienvenus. Et vraiment, j'avais vraiment à cœur d'honorer mon ami Olivier, qui nous a si bien conduit ce matin dans la louange, et vraiment vous dire que c'est très important pour cette famille Connect qu'on a implantée il y a bientôt 10 ans. La louange, l'adoration, c'est vraiment un pilier de cette communauté, et il faut vraiment que ça le reste et qu'on continue de grandir. Et des fois, oui, on a besoin d'être chamboulé et d'être interpellé sur où on en est dans ce domaine-là de nos vies, de l'adoration. Et il y a vraiment ce truc que quand on loue Dieu, quand on déclare qui il est, eh bien, au bout d'un moment, il y a l'esprit d'adoration qui se saisit de nous. Je ne sais pas si vous voyez, au début, des fois, tu n'es pas trop dedans, tu déclares, tu parles de Dieu, tu déclares qui il est, ce qu'il a fait, et alors que tu persistes dans ça, d'un coup, tu peux sentir l'esprit d'adoration venir sur toi, prendre place dans ton cœur et vraiment envahir ton être. Et alors que tu continues ce cheminement avec le Saint-Esprit, eh bien là, il y a la gloire de Dieu qui vient. Et là, c'est comme si toi-même, ton être, tout s'effaçait et tu es juste plongé dans une autre dimension de la gloire de Dieu. Et moi, c'est un peu ce que j'ai vécu dans ce temps de louange ce matin. Alors vraiment, merci à toute l'équipe de louange plus globalement, et qu'ensemble on puisse continuer dans cette direction, d'aller plus loin dans la louange, l'adoration. Amen. Amen. Waouh. Ouais, non, mais c'est pas grave, je vais le lire ici. Eh bien, écoutez, allons-y, on va lire. Voilà, tac. Voilà. Donc, vraiment, c'est important de... Pourquoi l'adoration, c'est si important? Parce que il faut être avant de faire. Et notre identité en Dieu est vraiment cruciale si on veut accomplir la mission qu'il a pour nous. Jésus est venu dans le monde pour une mission. Jésus est venu dans le monde pour accomplir la mission que le Père avait pour lui. Et vous savez, l'épisode du baptême de Jésus qui est relaté dans les évangiles, et je ne vais pas le relire en entier, mais juste vous rappeler les faits. Donc il y a Jésus qui est... l'évangile de Matthieu commence rapidement avec ça. L'évangile qui nous explique que Jésus... dit à Jean-Baptiste qu'il faut qu'il soit baptisé par lui. Jean-Baptiste, son cousin, ne veut pas. Il dit, mais non, c'est moi qui a besoin d'être baptisé par toi. Et là, Jean-Baptiste finit par accepter et il baptise son cousin dans le Jourdain. Et là, Jésus, c'est important de réaliser que le texte dit que Jésus voit l'Esprit venir sur lui sous la forme d'une colombe. Donc ça, c'est vraiment une expérience que lui a personnellement dans ce moment-là. Et là, qu'est-ce qu'il est dit ? Qu'il y a une voix, cette fois-ci quelque chose de public, une voix qui se fait entendre du ciel, de tous, où le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. » Et là, qu'est-ce qui se passe juste après ? Donc Jésus est envoyé et conduit par l'Esprit dans le désert. Pourquoi ? Pour y être tenté. En fait, c'est comme si la révélation que le Père donne publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, elle a besoin d'être éprouvée pour vraiment se rendre compte de la solidité de ça. Jésus est mis à l'épreuve dans le désert. Et là, qu'est-ce que lui dit le diable, Satan, le père du mensonge ? Il lui dit par deux fois, « Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci ou fais cela. » À deux reprises, il lui dit ça. Et c'est comme si l'ennemi essaye d'attaquer ce que Dieu veut faire par rapport à l'identité de Jésus. Parce que c'est important de réaliser que la mission qu'on veut remplir, et c'est de ça que je voulais vous parler ce matin, elle est liée à notre identité. C'est d'abord être avant de faire. Et c'est vrai que beaucoup dans notre vie de tous les jours, je ne sais pas si vous c'est le cas, mais en tout cas moi c'est le cas, il y a des moments où on est moins bien, et on se demande vraiment, mais à quoi bon ? Moi, souvent, je vous raconte dans mon métier d'infirmier à domicile, ben oui, je soigne pas mal de gens qui sont soit malades, soit, enfin forcément malades, mais souvent très âgés, et d'être chez eux, je vois, vous savez, toutes les photos de leur vie, et je les vois jeunes, au bord d'une piscine, avec leurs enfants, qui aujourd'hui ont 60 ou 70 ans, je les vois voilà, dans toutes ces choses-là, et c'est vrai que ça peut m'arriver d'avoir des coups de blues, comme ça, de me dire, pétard, mais à quoi bon, on va tous au même endroit, oui, on vieillit, puis on a des capacités un peu qui diminuent, mais voilà, à chaque fois que j'ai ces moments-là, non, je reviens à Dieu et je me dis, non, mais Seigneur, je sais que la vie a un sens. En fait, et c'est ça que je me rends compte à chaque fois, c'est que la vie a du sens quand elle est vécue avec Dieu, quand elle est vécue pour Dieu. Amen. Il y a vraiment un sens à notre vie. Et trop souvent, on peut être dans ce métro-boulot-dodo, dans une succession de jours, de tâches, où on ne réfléchit pas, on fait juste parce que, ben voilà, il faut faire. Mais vraiment, il y a ce risque de perdre la vision pour notre vie. Et si c'est ton cas, peut-être que tu es ici, tu es dans une saison de vie où c'est comme ça, tu vis ta vie tous les jours, tu as un boulot peut-être que tu n'aimes pas forcément, peut-être que tu galères à la maison avec tes enfants ou seul, c'est possible, mais je t'invite vraiment ce matin à faire pause parce que Dieu a des plans pour toi et il a une mission pour ta vie. Il ne t'a pas fait venir au monde, il ne t'a pas fait le connaître pour rien, il t'a fait le connaître parce qu'il a une mission pour ta vie, pour que tu sois une source de bénédiction. Amen. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir qui on est. Et le diable essaye d'instiller le doute à Jésus. Et de la même manière, il essaye d'instiller le doute dans nos vies, en nous attaquant sur notre identité. Il y a ce passage dans Actes 19, un peu plus tard, avec Paul, donc quelques juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons, voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprit mauvais. Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ainsi étaient les sept fils d'un certain Sceva, chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, écoutez bien, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous ? Vous voyez comment c'est hyper important d'avoir vraiment cette conscience, cette ferme conviction de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu. Parce que sinon, la mission qu'on a pour notre vie ne va pas, ça va être compliqué de rentrer dedans. Et moi, j'ai vécu ça. Il y a quelques années avec mon cher Simon, que beaucoup connaissent, qui est beaucoup venu ici et qu'on va retrouver bientôt dans quelques jours en Angleterre. Et vous savez, la première fois que j'ai rencontré Simon, en fait, parce que oui, derrière ce qui s'est passé, notre rencontre, puis plein d'autres événements ont fait que ça a débouché dans l'implantation de cette église. Sauf que la première fois que je l'ai rencontré, ce n'était pas du tout pour faire quelque chose. C'est qu'il y avait un week-end qui était organisé, une conférence sur l'amour du Père. Et aujourd'hui, c'est quelque chose voilà, qu'on prêche à longueur d'année, de culte, etc. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on mettait autant l'emphase. Et moi, du coup, je ne suis pas allé là-bas en me disant « il va se passer quelque chose derrière, je vais faire plein de choses derrière ». Non, pas du tout. Je suis allé là-bas parce qu'avec Emmanuel, on a été à ce week-end parce qu'on en avait besoin, parce qu'on avait terriblement besoin d'être renouvelé, d'être touché par l'amour de Dieu, l'amour du Père. C'était vital. Et on a été à ce week-end, et dans ce week-end, je me suis mis à nu, j'ai été d'une grande authenticité, je me suis ouvert, et il y a des gens qui étaient là pour nous aider à cheminer par rapport à nos blessures, par rapport à notre histoire, et on a pu être soignés comme ça par l'amour du Père. Et j'ai fini ce week-end dans les bras de mon papa. Ce n'est pas quelque chose qui est très culturel dans ma famille, de se prendre dans les bras. Mais j'ai fini ce week-end dans les bras de mon papa. Et vraiment, le Seigneur a fait quelque chose de profond en moi. Et ce n'était pas la seule fois. Il y a eu plein d'autres fois encore, les années qui ont suivi. Mais comme quoi, vous dire que d'abord être avant de faire. On a besoin d'être renouvelé, d'avoir cette conscience que nous sommes enfants de Dieu, que quand on s'approche de Dieu, on ne vient pas vers un Père méprisant, jugeant sur nos mauvaises actions. On vient devant un Père qui est tout le temps tellement heureux de venir à nous comme le fils qu'on appelle à tort prodigue, comme le plus jeune fils du père prodigue dans cette histoire de Luc 15. Et ce matin, alors qu'on priait, ce passage me revenait, où il est dans la mouise, il fait n'importe quoi, il fait comme si son père était mort, et puis il se retrouve à aller gaspiller tout l'argent, il se retrouve vraiment dans la misère. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rappelle de commencer dans la maison de son père. Et là, il prend cette décision. Il prend cette décision et il y a ce verset merveilleux qui dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père ». Et je veux vraiment vous encourager, les amis. Peut-être que tu es dans une situation où tu n'es pas sûr, tu es là, tu erres un peu, tu as des incertitudes, tu as un mal-être peut-être en toi. Tu te dis, mais je suis en train de passer à côté de ma vie. C'est possible, on passe tous par des moments comme ça. Et je veux vraiment t'inviter ce matin à faire cette prière dans ton temps avec Dieu et dire, Seigneur, je reviens à toi, je me lève. Il y a une action délibérée de notre part. Ce n'est pas Dieu qui fait tout, ce n'est pas je reste comme ça, j'attends qu'il se passe quelque chose. Non, je décide de me lever et de retourner vers mon Père. Et lui, il nous accueille à bras ouverts. Il a plein de choses merveilleuses pour nous. Et comme l'ennemi, le Satan, a voulu détourner Jésus de l'appel qu'il avait sur la terre en remettant en question son identité, le diable va le faire en nous susurrant beaucoup de mensonges. Et voilà, grâce à Simon, on s'est retrouvés dans cette église à King's Arms. Et pareil, quoi, qu'est-ce que c'était bon de soigner encore nos cœurs. Et il y avait notamment, parfois on a fait une école du surnaturel, et je me rappelle un jour où il y avait un exercice qu'il fallait qu'on fasse, c'était un genre de parcours de motricité, vous savez comme ils font les petits à la crèche ou quoi, et on finissait ce parcours en montant sur quelque chose, et on avait identifié au préalable des mensonges qu'on avait cru sur nous, des mensonges que l'ennemi avait dit sur nous, par exemple, je suis pas beau, je ne vaux rien, je suis insignifiant, je ne suis pas suffisant, vous voyez ce que je veux dire. Et une fois qu'on avait identifié ça grâce au Saint-Esprit, ben on faisait ce parcours et on montait sur ce truc et on disait, je dénonce le mensonge que je suis machin, tatada, je refuse de croire. Et là, on sautait comme ça de ce monticule et ça manifestait, c'était l'image de cette liberté dans laquelle on rentrait. Et je veux vraiment t'encourager, mon frère, ma sœur, ce matin. Je sais que ça concerne tout le monde, en fait. On a cette capacité, l'ennemi a cette capacité à susurrer des mensonges sur qui on est dans notre oreille. Et nous, malheureusement, on a souvent ce défaut de le croire. De le croire et de croire que ça fait partie de notre identité. Je suis comme si, je suis comme ça, je suis pas assez comme si, je suis pas assez comme ça. Et est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant, les amis ? J'ai vraiment un cœur qu'on puisse se mettre devant Dieu. Et Seigneur, Saint-Esprit, toi, tu nous connais par cœur parfaitement. Tu connais nos cœurs, Seigneur, tu connais nos parcours, tu sais là où nous en sommes, chacun de nous. Et Seigneur, tu sais aussi les mensonges que nous croyons sur nous. Et peut-être que ce matin, voilà, tu es là et tu te sens moche. Peut-être que tu es là et tu te sens abandonné. Tu dis, je mérite ce rejet. Peut-être ce matin, tu te sens perdu, tu te sens comme si il n'y avait pas de solution pour ta vie, comme si ta vie n'avait pas de but, comme si tu étais égoïste, comme si tu étais vraiment pas assez bien pour être aimé, tu ne méritais pas qu'on t'aime. Seigneur, vraiment, on veut briser ces mensonges dans le nom de Jésus. Et alors qu'il y a ce qui te concerne, qui te vient dans la tête, vraiment, brise-le maintenant dans le nom de Jésus. Insurge-toi contre ce mensonge et dis, Seigneur, je refuse ce mensonge. Je refuse ce mensonge et j'embrasse la vérité. Que oui, je suis digne d'être aimé par toi parce que tu es mon Père. Oui, tu as fait de moi une créature merveilleuse. Oui, quand je me regarde dans le miroir, je peux être fier de la personne que je vois parce que je suis ton enfant. Oui, tu as des projets de paix. Mon avenir existe, est prévu et tu as de belles choses pour ma vie. Non, mon avenir n'est pas sans espoir. Je brise ce mensonge dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je vous invite vraiment à faire ce travail. Des fois, ce n'est pas évident. Je fais l'exercice de temps en temps. On a tous, je pense... On va tous devant le miroir, au moins une fois par jour, le matin, ou quand on se brosse les dents, matin et soir, Dieu voulant. Je vous invite à faire l'exercice. Quand vous êtes devant le miroir, juste faites pas, regardez-vous dans les yeux. Regardez-vous dans les yeux et parlez-vous à vous-même. Dites à la personne qui est dans ce miroir, Tu es un mec génial. Tu es une femme géniale. Tu es aimé par l'amour le plus grand de l'univers. Amen. Amen. Si vous êtes une femme, vous pouvez dessiner un cœur avec votre rouge à lèvres. Faites quelque chose comme ça. Amen. Et du coup, Jésus, il est venu, cette mission sur terre, cette mission, c'était de réconcilier le monde avec son Père. Et puis voilà, en a résulté l'Église. Mais qu'est-ce que c'est l'Église ? Et c'est vrai que les siècles ont passé et l'Église s'est un peu organisée. Et bien sûr, elle a plein de formes, elle a eu plein de formes différentes au fur et à mesure des siècles. Et aujourd'hui, ben c'est voilà, il y a un peu tous les styles. Mais c'est important de réaliser que l'Église, c'est pas des programmes, des habitudes. Non, l'Église, ce sont les disciples de Jésus qui se rassemblent. C'est nous l'Église. Et puis que Jésus, c'est le chef de l'Église. Il en est sa tête. Et s'il en est sa tête, vous savez, j'ai réalisé ça ces derniers temps, que dès qu'on pense au début de l'Église, on pense tout de suite à la Pentecôte, le jour où les 120 ont reçu, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà partagé, mais je le répète parce que c'est très important, au moment où les disciples ont reçu l'onction du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et oui, c'est vrai, ça fait vraiment partie du développement extrêmement rapide de l'Église ce jour-là. Mais j'ai vraiment réalisé ces derniers temps que si on dit que Jésus est la tête de l'Église, si on dit qu'il en est le chef, si on sait que la personne qui est la tête, le chef, l'époux de l'Église a vécu 3 ans, enfin a eu un ministère public de 3 ans sur la terre, mais c'est sûr que c'est lui le modèle aussi de ce que c'est que l'Église. Est-ce que vous croyez qu'il n'aurait pas montré ce que c'est que l'Église, qu'il aurait attendu que le Saint-Esprit tombe sur les disciples pour qu'on sache enfin ce que c'est l'Église ? Bien sûr que non. Jésus est notre modèle en toutes choses. Et qu'est-ce que Jésus a modelé ? Après cet épisode du baptême, de la tentation, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à choisir ses disciples. Et là, il a passé 3 ans avec eux. Ou qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, ils vivaient ensemble, ils étaient très 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 souvent ensemble. Et il s'est déversé en eux. Et il les a formés. Et puis comme super formateur, il leur a fait faire ensuite. D'ailleurs, il y a ce passage qui dit que Jésus, au début des évangiles, ne baptisait pas les gens. C'était ses disciples qui le faisaient. En fait, vraiment, il les a formés, il les a fait faire. Et puis, bien sûr, vraiment, il les a laissés après se débrouiller avec le Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. Et l'histoire de l'Église a continué. Mais c'est lui qui est le modèle. Et le modèle, c'est que Jésus, dans Jean 1, ça nous dit bien, la parole faite chair. Jésus, la parole faite chair, s'est multipliée. J'accélère un peu parce que j'ai changé mon programme en dernière minute et on va faire quelque chose un peu différent d'habitude. Et du coup, donc Jésus, c'est la parole faite chair. Donc Jésus, la parole, il est la parole. Il y a cette parole justement dans Actes 6, 7 qui dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup. » Donc en gros, une fois que Jésus est parti, il était quand même là. Vu qu'il est la parole faite chair, cette parole a continué à se répandre alors que lui-même était parti. Et Jésus connaissait la parole. Vous savez, cet épisode, je ne vous le relis pas, des disciples d'Emmaüs, où il est dit, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Donc Jésus connaissait la Torah sur le bout des doigts. Il défendait la parole de Dieu et il s'attendait aussi à ce que tous ses disciples connaissent la parole de Dieu et la vivent et s'appliquent pour eux-mêmes. Amen. Donc il y a vraiment ce côté enseignant de Jésus qui a fonctionné quand il était sur la terre et qui a continué une fois qu'il est monté au ciel. Et la parole, l'intérêt, c'est quoi ? C'est de la mettre en pratique, c'est d'obéir à la parole. Donc quand tu obéis à la parole, c'est obéir à Jésus, Jésus qui est la parole. Et les pharisiens, ça c'est Jean 4, 2, les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait baptiser plus de disciples que Jean. En fait, Jésus ne baptisait personne, c'était ses disciples qui le faisaient, donc ils étaient dans cette obéissance. Et parfois, on a, vous savez, ce mot « obéissance », ça date de notre enfant, je pense, on a un peu de mal avec ce mot, sauf que, bien sûr, nous obéissons par retour, nous obéissons parce qu'il nous a aimés, et en fait, c'est une obéissance par amour. En fait, on est tellement émerveillé par Jésus que notre cœur et tout notre être a envie de le bénir, de l'honorer. Amen. Donc, Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui. Nous établirons notre demeure chez lui. C'est ce qu'on voit dans l'évangile de Jean. Et enfin, avant de passer un témoignage, il y a, donc on a dit quoi ? On a dit Jésus est la parole. Donc vraiment, grandir en tant que disciple, c'est grandir dans connaître Jésus. Et donc connaître, j'ai plus ma Bible du coup, mais connaître sa parole, lui qui est la parole. Quand tu ouvres ta Bible, je le dis chaque fois aux jeunes, quand tu ouvres ta Bible, en fait, il faut que tu t'imagines, c'est comme si Jésus est assis juste à côté de toi, avec sa main sur toi, et il dit, regarde mon enfant, regarde comme c'est merveilleux, ça parle de moi, ça parle de moi. Donc d'abord, on connaît Jésus, on connaît la parole, ensuite on obéit à la parole par amour pour lui. Et enfin, la mission que Jésus nous a donnée, laissée en tant que disciple, c'est de faire ce que lui a fait pendant 3 ans, en fait, de transmettre. Jésus a transmis la parole. Jésus, en fait, s'est transmis lui-même aux disciples pour que les disciples deviennent comme lui. Et ensuite, par l'onction du Saint-Esprit de la Pentecôte, ça s'est démultiplié. Et c'est pour ça qu'on lit « La parole se répandait de plus en plus ». Jésus a cette mission pour toi, mon frère, ma sœur, de transmettre. Et c'est vrai que dans notre société de consommation, je trouve qu'on est très bon d'en recevoir, on est très bon dans « Oui, Seigneur, j'ai besoin de plus de toi, plus de bénédiction, d'être Seigneur, d'être touché, d'être rempli, de waouh, waouh, waouh », mais qu'on est beaucoup moins bon dans le transmettre, dans cet aspect générationnel. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a vraiment ce côté transmission aux générations, à d'autres, qui est très, très important. Juste un petit verset, puis je vais laisser la parole à mon ami Marc, 2 Timothée 2:22. Donc ça, c'est à la fin du ministère de Paul. Il dit à son disciple Timothée, à qui il s'est transmis, à qui il a transmis, « L'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, d'instruire d'autres, donc de transmettre à d'autres. » Vous voyez cette multiplication ? Est-ce que Marc, tu peux nous partager ce que tu as vécu ces jours-ci ?
Merci Matt, bonjour à tous. Donc en fait, ce matin, je partageais à Matt un témoignage, quelque chose que je suis en train de vivre, et ça fait le lien directement avec ce qu'il a partagé ce matin, donc ce n'était pas du tout prévu que j'intervienne. Et en fait, ça fait plusieurs semaines que j'avais à cœur de faire un groupe de découverte, c'est-à-dire un petit peu ce qui a été repris ce matin, c'est-à-dire passer du temps avec des personnes qui ont envie de connaître Jésus, d'en savoir plus, de passer du temps avec eux. Et j'ai intercédé pendant plusieurs semaines. Et il y a quelque temps, je sors du travail et j'ai l'occasion de retrouver un jeune homme qui habite ma ville. Et il me dit « Ouais Marc, j'ai repensé à toi ces derniers temps, j'avais envie qu'on passe du temps pour que tu me parles de Jésus, pour qu'on parle de la Bible. » Et en fait, cette personne, j'ai prié pour elle il y a 6 ans à la gare SNCF de Pierrelatte. À l'époque, il était dans la drogue, il était vraiment au fond du trou. Et le fait d'avoir pu prier pour lui ponctuellement pendant 6 ans, ça lui a permis, le fait de lui parler de Jésus, de sortir de cette situation. Et je l'ai revu il y a quelques semaines, il m'a dit « Mais j'ai vraiment à cœur d'en savoir encore plus, je veux qu'on passe du temps ensemble. » J'ai dit « Écoute, on va faire un groupe de découverte. » Donc c'est un outil, groupe de découverte, groupe de croissance, groupe théophile, café croissance, en fait, c'est la même formule. C'est reprendre un petit peu, faire un peu ce que Jésus a fait à l'époque. C'est-à-dire on se met autour d'une table, on se met à un café, un truc comme ça, et puis on passe du temps autour de la parole. On met la parole vraiment au centre de ce moment, c'est qu'est-ce qu'a fait Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, dans le but de faire découvrir Jésus à des personnes qui ne le connaissent pas, qui ne le connaissent pas pleinement, ou de passer du temps pour faire des disciples qui font des disciples, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et pour moi, nous qui sommes des disciples de Jésus, on doit avoir cette position d'intercéder pour ces âmes perdues, intercéder pour ces personnes qui ont soif, parce que dans nos villes respectives, on a des personnes, j'en suis convaincu, qui veulent en savoir plus sur ce Jésus, qui veulent vraiment grandir. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont soif, qui sont à la recherche, mais qui ne savent pas vers qui aller. Et nous, on doit être ces intercesseurs. Pour ces personnes, on doit être prêt à répondre présent. Parce que moi, quand je suis sorti du boulot l'autre jour, j'avais la tête comme tout le monde, on sort du travail, on est là, pff, et puis paf, on rencontre quelqu'un qu'on connaît qui dit ça. Ben, il faut être prêt, il faut dire oui, il faut répondre présent. Il ne faut pas être celui qui repousse avec du pied en disant ben, on remet ça à plus tard, dans 1 mois, dans 2 mois, j'aurai moins de travail. Non, il faut, pour moi, il faut vraiment répondre présent. Et on passe des temps incroyables dans ces groupes de découverte. On le fait dans un lieu public. On le fait pas à la maison parce que bon, ça correspond plus notamment à la personne qui vient. Et moi, je trouve ça incroyable parce que ça reprend un peu les scènes de Jésus où dans un lieu public, ben voilà, Jésus est là, il parle, c'est comme s'il était autour de la table. Et il y a des personnes qui prêtent l'oreille. Ça fera très certainement son chemin. Merci.
Yes. C'est très très bon. Vous savez, j'ai eu la chance. Marc, oui, a un appel particulier d'évangélisme, mais vraiment démonter cette fausse croyance, tout ça, c'est pas réservé aux évangélistes. C'est pour tout disciple, tout enfant de Dieu. Et Marc et d'autres sont là pour nous encourager dans cette voie-là. Mais j'ai eu la chance deux fois là, d'aller un peu dans les rues, que ce soit de Montélimar ou de Pierre-Latte avec Marc. Et c'est beau comme Dieu fait les choses de manière très naturelle. Quoi. C'est pas quelque chose où, oui, il faut se bouger un peu pour être dans cette intentionnalité. L'intentionnalité est vraiment essentielle. Et c'est pour ça que je demandais à Marc de partager ce témoignage, parce que ça m'a frappé quand il m'a dit que ça, pendant 6 ans, il avait prié pour ce jeune homme. Et vraiment, le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 10, dans Luc 10, priez pour que Dieu envoie les ouvriers dans la moisson. Mais les ouvriers dans la moisson, ce n'est pas forcément des gens qui sont déjà chrétiens. Moi, je crois que ce jeune homme est un ouvrier, en fait. Il ne le sait pas encore, mais il est un ouvrier pour la future moisson d'après lui. Amen. Et vraiment, et ça, je le prends pour moi parce que je ne suis pas bon là-dedans, dans le fait de garder vraiment des carnets de prière où on prie pour les gens comme ça sur des années. Je pense que vraiment, il y a une clé là-dedans. Ça ne se fait pas sur des grandes scènes ou derrière des micros. Ça se fait dans le quotidien, d'avoir ce petit carnet où tu notes des gens que tu vas garder dans la prière. D'ailleurs, bien souvent, si nous, on est là, moi, je sais que si je suis devant vous ce matin, c'est parce que mon prénom a été sur des carnets de prière de certaines personnes. Et donc, vraiment, vraiment, je retiens ce principe d'intentionnalité. Les groupes de découverte, ça, le principe n'est pas magique. Ça peut être de plein de manières différentes. Et j'avais vraiment à cœur de vous relire Deutéronome 6, verset 4, sur cette transmission de Dieu aux autres. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, mais ne réalise pas ce qui vient. » Donc souvent on prie ça, mais on ne réalise pas tout ce qui vient tout de suite après ça, après ce commandement le plus important. « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte, hein, c'est la mezouza des Juifs, de ta maison et sur les portes de tes villes. Et en fait, vraiment, ça me parle. Et pareil, je suis pas, moi, parfait là-dedans, mais soyons intentionnels de grandir. Nos premiers disciples, si tu as des enfants, ce sont tes enfants. Et c'est vrai qu'encore une fois, dans ce côté un peu individualiste de notre société, on oublie ce Dieu des familles, ce Dieu des générations. Et vraiment, on a besoin d'être dans cette intentionnalité au quotidien. Que chez nous, c'est ta famille est un champ de mission, et ton champ de mission, tes amis au travail, etc. Partout, en fait. Mais ça demande une intentionnalité. Tu les répéteras à tes enfants. Et en fait, il faut passer notre temps à faire ça, quoi. Et messieurs, moi qui suis un homme, messieurs, nous, c'est vrai que les hommes, on a un peu tendance parfois à courir. L'image est bonne, je passe mon temps à courir, mais courir hors de notre foyer, comme si les femmes devaient être au foyer et les hommes pas dans le foyer. Mais non, c'est vraiment un truc de couple, mais aussi d'hommes, de femmes. Donc messieurs, vraiment, je nous encourage. Nous sommes les responsables spirituels de notre famille, comme Dieu a confié cette responsabilité à Adam. Et on a besoin de nous saisir de ce mandat pour nos enfants. On étudiait ces stats avec Emmanuel à l'église MLK, c'est un bon outil de stats parce qu'ils sont très nombreux, où 70% des gens qui font partie de cette église sont des femmes, les amis. Pourquoi ? Parce que les garçons n'ont plus envie de venir à l'église. Pourquoi ? Parce qu'ils manquent de modèles. Alors messieurs, je nous encourage. Et là, les amis, je vous livre mon cœur qui est attristé. Parce que ben voilà, Emmanuel et toute une équipe sont passionnés par les enfants dans l'église. Mais c'est très compliqué de remplir les plannings, les amis. Et il y a nos enfants à nous, il y a un peu tous les cercles que j'ai mentionnés où on est appelé à transmettre. Mais Dieu, dans cette église Connect Montélimar, nous a confié une génération. Il y a 80 moins de 18 ans dans l'église régulier ici. Et soit on continue à considérer que c'est une corvée que de s'occuper d'eux, qu'on le fait parce qu'on doit le faire. Vous savez, beaucoup nous disent « Ah, mais moi, je suis disponible pour aider. Je suis disponible, mais je ne veux pas porter. Moi, je suis disponible pour donner un coup de main. » Ou au dernier moment, dès qu'on demande, oui, des gens lèvent la main et c'est super. Mais c'est, franchement, ce n'est pas vraiment de ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est chacun de nous, hommes et femmes. Et il y a des hommes qui sont dans cette équipe, qui prend soin, qui transmet à ses enfants. Il y a des hommes valeureux, et merci, messieurs, mais il n'y en a pas assez. Si on ne veut pas que tous nos garçons, dès qu'ils ont 12-13 ans, ils aient plus envie de venir à l'église, il faut qu'on soit là pour eux, il faut qu'on crée une relation avec eux, qu'ils sachent que quand ils viennent ici, ce n'est pas la corvée d'aller à l'église. Je viens dans un endroit où il y a des gens qui ont envie de m'y trouver, qui ont envie de passer du temps avec moi. Et les amis, vous savez, il y a ce syndrome qui est dur dans toutes les églises évangéliques de France. Moi, je suis chrétien depuis 33 ans. Je l'ai vu. J'ai vu combien de gens qui s'occupaient des enfants arrivaient à en avoir marre et à tout arrêter du jour au lendemain. Parce qu'il y a 20%, et c'est la règle dans les églises évangéliques, il y a 20% des gens qui font 80% du boulot. Donc moi, je vous l'ai dit, les amis, saisissons-nous de ce bâton. C'est une opportunité incroyable. J'étais à Life encore, je dis pas ça pour m'aider, je suis juste venu avec mes filles conduire un petit temps de louange, mais de voir ces jeunes, ils étaient, je sais pas, 35-40 vendredi, ils sont une cinquantaine à Life globalement. Imaginez-vous l'opportunité que tu as d'investir dans ces jeunes, ça va changer leur vie tout entière. Si tu investis dans un adulte de 50-60 ans, c'est super, mais si tu investis dans un enfant de 2 à 17 ans, c'est une vie entière, c'est un potentiel de transmission de la parole de Dieu dans le monde entier incroyable dans lequel tu investis. Alors vraiment les amis, je vous le dis en tant que responsable de cette église, franchement il y a des domaines où c'est extraordinaire ce qu'on vit. Mais dans ce domaine-là, je sens qu'il y a un palier de maturité dans lequel il faut qu'on grandisse. Ne soyons pas comme toutes les églises, ne soyons pas dans ce 20-80, s'il vous plaît les amis. On a une vision globale de ces choses-là. Mais pétard, ça serait tellement génial qu'on se dise d'ici 6 mois, 1 an, qu'on a vraiment progressé dans ce domaine. Et qu'on vient, et on vient pas pour faire une petite activité. On vient en se disant, on est Jésus pour ces enfants, pour ces jeunes. On est Jésus pour eux. C'est comme si Jésus s'asseyait à côté d'eux. Il disait, mon enfant, regarde ma parole. Regarde les plans merveilleux que j'ai pour toi. Ils valent le coup, les amis. Ils valent le coup. C'est pour ça que Dieu nous a mis ensemble. Tu crois que tu es là par hasard? Tu n'es pas là par hasard. C'est Dieu qui t'a amené ici et ce n'est pas pour rien. Et ça, c'est un modèle qu'on peut répliquer à Grenoble, à Gap, à Saint-Paul, dans tout le Dauphiné, que vraiment ensemble, on puisse avancer dans cet aspect familial. La famille, c'est une de nos 4 valeurs cardinales dans cette Église, qu'on puisse vraiment vivre cela. Il n'y a pas d'amertume en moi, mais oui, il y a une tristesse. Oui, il y a une tristesse parce que je veux remercier. Il y a toute une équipe qui se réunit. Elles se réunissent chaque semaine pour prier pour ça, pour se former. Mais c'est pas le but, c'est pas que elles fassent tout le boulot. Le but, c'est que ça emmène une dynamique, comme la louange est faite pour nous emmener dans la louange, comme des Marc, des Rémi, des Loïc, des Kat, nous emmènent dans le témoignage, nous donnent envie d'aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et bien, il y a cette équipe qui est là pour nous donner envie d'investir dans cette génération qui arrive après nous. Qu'on puisse signer sur cet appel que Dieu nous donne de transmettre. Amen. Franchement, si on fait ça, oui, on suivra le modèle que Jésus nous a laissé. Jésus qui s'est arrêté pour un Zachée, qui s'est arrêté pour une Marie-Madeleine, qui s'est arrêté pour une femme adultère, qui s'est arrêté au puits pour la Samaritaine et qui a dit « Laissez venir à moi, ils ne me dérangent pas ces enfants, j'ai envie de passer du temps avec eux, j'ai envie de me déverser en eux. » Amen les amis. Est-ce qu'on peut se lever pour finir ce temps ensemble ?